Oui, moi, je voulais te dire que quand je t'ai écoutée, j'ai retrouvé quelque chose, enfin, que je retrouve régulièrement aux UH, mais ailleurs aussi, c'est cette impression d'entendre un discours masculin, ce qui est normal, mais pas conscient d'être uniquement masculin, ce qui pour moi l'est moins. C'est-à-dire que, alors je précise bien que je parle au nom, parce qu'on parle de féminisme dans le thème de cette journée, que je parle bien de mon féminisme à moi, dans la mesure où je crois qu'il y a des féminismes et non pas un féminisme. Et dans une discussion un peu orageuse qu'on a eue sur la prostitution aux UH, effectivement, je sais très bien qu'il y a des féministes qui ont d'autres positions. Mais au nom de mon féminisme à moi, il y a quelques petits oublis ou différences d'analyse que je trouve significatifs. Et je vais t'en donner trois. Quand tu faisais l'analyse anthropologique entre le judaïsme et la religion chrétienne, effectivement, tu insistais sur le fait que dans le judaïsme, il n'y a pas ce côté monastique de vivre sans sexualité. Mais s'il y a bien une chose que le judaïsme a transmis au christianisme et plus tard d'ailleurs à l'islam, c'est bien cette haine des femmes, ce mépris des femmes. Parce qu'après tout, bon, il y a Marie la Vierge, mais il y a Ève la tentatrice. Enfin, peut-être qu'elle utilisait le serpent comme gode, ce sera amusant d'ailleurs, comme je me suis dit ça. Mais il y a Ève la tentatrice, mais il n'y a pas que ça. Si tu prends l'histoire d'Abraham, justement, Abraham qui est considéré dans la religion juive comme vraiment le père, donc le personnage positif, et sa femme, Sarah, comme personnage positif aussi, il faut quand même se rappeler que parce que sa femme ne pouvait pas avoir d'enfant, il a fait un enfant à la servante, et puis quand sa femme a 100 ans, c'est une PMA extraordinaire, là, hein, donc on n'a pas attendu la Marie, la Vierge, pour avoir des enfants par des méthodes tout à fait modernes. Hein. Donc quand Sarah, à 100 ans, s'est retrouvée quand même enceinte, qu'est-ce qu'il a fait, ce grand saint? Il a envoyé sa servante dans le désert avec son gosse crevé de faim. Bon, je ne sais pas, mais je ne trouve pas vraiment que ce sont des figures positives, mais il faut voir comment on traite la femme. Donc, ou bien la femme peut avoir des enfants, et alors effectivement, c'est notre mère à tous, ben, si elle ne peut pas avoir des enfants, elle n'a aucune valeur. Donc, ça a très bien passé du côté chrétien. Donc, le mépris ou la haine des femmes, c'était déjà présent avant. Et je crois que c'est important de se dire, bon, bien sûr, sur la sexualité, il n'y a pas tout à fait la même position dans l'islam non plus, d'ailleurs. Hein, l'islam est beaucoup moins sexophobe ou chorophobe, hein, la haine du corps, que le christianisme qui a poussé les choses très loin. Mais pour qui? Pour les hommes. Donc là, je crois que c'est un détail quand il ne faut pas oublier. Le deuxième point sur lequel je voulais revenir, c'est quand tu parlais du fait que la contraception avait permis de libérer la sexualité de la reproduction et que maintenant, il y avait toute une série de techniques qui permettaient de libérer la reproduction de la sexualité, qui est un parallèle intéressant. Mais c'est un parallèle sur lequel je sais qu'il y a des féministes qui s'interrogent aussi, parce que est-ce que ce n'est pas une façon d'enlever un pouvoir, je n'aime pas tellement le mot pouvoir, et moi personnellement, le fait d'avoir des enfants, je ne considère pas que c'est tellement un pouvoir, enfin, quand même un pouvoir aux femmes, mais surtout, la revendication des femmes, c'était mon corps est à moi, et que maintenant, c'est mon corps est à la science. Parce que toutes ces méthodes-là, ce n'est pas quelque chose qui appartient à la personne et qu'elle peut décider, c'est quelque chose qui doit passer par des scientifiques, et la plupart des scientifiques sont quand même toujours des hommes. Donc je ne suis pas sûre que ce soit vraiment quelque chose qu'on peut mettre en parallèle, et en tout cas cette interrogation, je ne dis pas que j'ai une réponse, enfin, ou qu'il y a une réponse, mais cette interrogation est pour moi une interrogation foncièrement féministe. Et enfin, le troisième point, pour ne pas parler de prostitution, même si tu as fait un petit rapport entre prostituée et fille excisée dans la même phrase, mais c'était peut-être un hasard, donc bon, passons. C'est sur, effectivement, sur les lesbiennes. Tu as déjà soulevé cette question. Est-ce que vraiment elles sont stigmatisées parce qu'elles sont sursexuelles ou si c'est parce qu'elles sont sans sexualité? Mais je crois qu'on oublie un peu aussi le côté social, c'est-à-dire que le gros scandale du lesbianisme, c'est que des femmes puissent se passer des hommes. Alors déjà, que les femmes puissent se passer des hommes économiquement lorsqu'elles travaillent, c'est déjà une perte de pouvoir pour les hommes. Mais si en plus elles peuvent s'en passer sexuellement, là effectivement les hommes ont perdu, les hommes comme groupe social, ont perdu un gros pouvoir. Et moi, je crois que la lesbophobie, dans ce qu'elle a de différent par rapport à la gayphobie, ben, c'est vraiment foncièrement ça, et que c'est aussi une chose où il faudrait admettre le fait que, même si on a évidemment un combat commun, parce qu'il y a une répression commune, les motifs ne sont pas toujours communs, et que parfois même, on peut se retrouver pas toujours du même côté de la barrière dans les combats. Et je crois que c'est une chose que, moi, je souhaiterais que dans les UH, on puisse un peu plus creuser cette question-là. Qu'est-ce qui nous rassemble, d'accord, et qu'est-ce qui nous différencie et qui, même parfois, peut-être nous oppose?
Oui, alors je réponds dans l'ordre inverse. Donc, la question de la lesbophobie. Alors, pour ce qui est de la lesbophobie, je fais la même réponse. Je n'ai pas dit que la sexophobie expliquait totalement la lesbophobie. J'ai dit que c'était un élément qui, évidemment, expliquait, qui contribue à expliquer la lesbophobie. Mais la question du pouvoir, la question, justement, de l'autonomie des femmes qui pourraient avoir une sexualité, et pas seulement, indépendamment des hommes, voilà aussi un argument qui entre en ligne de compte dans la lesbophobie. Et ça, je crois que ça me paraît tout à fait évident. Donc, encore une fois, je parle de la sexophobie comme élément contribuant à d'autres stigmatisations. Donc je crois qu'il faut que ce soit clair. Alors, par ailleurs, pour le premier point, je laisse le deuxième pour la fin, la question du judaïsme. Alors, c'est parce que je suis allé trop vite, mais je n'ai jamais dit, bien sûr, que le refus de la chair du christianisme, tel que le christianisme l'élabore, était en soi meilleur ou moins bien que ce qui précédait. Évidemment, il y a dans la pensée juive une valorisation de la fécondité, mais qui n'est nullement une valorisation de la femme. Donc, je ne sais pas si dans mon exposé il y avait quelque chose qui semblait regretter le bon vieux temps de l'Ancien Testament où les femmes étaient libres, et puis avec le christianisme tout aurait été perdu, mais pas du tout. Hein? Donc je crois qu'il faut que ce soit clair, pas du tout. Il y a un changement de paradigme, et je ne sais pas si dans un cas comme dans l'autre, les femmes y ont gagné grand-chose. Alors ça, je suis tout à fait d'accord. Et puis la dernière question, celle qui concerne les techniques de procréation, sont-elles, enfin la liberté sexuelle en gros, est-elle oui ou non un avantage pour les femmes? Enfin, c'est ce débat que les féministes ont eu de manière très virulente, évidemment, les années 70. Donc le débat n'est pas entre une vision masculine qui serait la mienne et une vision des femmes, etc. Je crois que c'est un débat qui traverse les féministes dont je suis, et effectivement, ce débat n'est pas réglé aujourd'hui. En tout cas, il m'apparaît clair que la science n'est jamais qu'un outil, et qu'elle ne propose pas, a priori, une amélioration, une régression. Tout dépend de la manière dont l'outil est utilisé. C'est comme n'importe quel outil. Simplement, elle propose des moyens d'autonomisation qui peuvent être aussi des moyens d'oppression, etc. Donc, évidemment, le dispositif social se constitue de manière neutre, a priori, et c'est après, c'est l'histoire et les combats des uns des unes qui fait que ça va dans un sens ou dans un autre. Mais ça me paraît assez clair quand même que ces techniques de contraception d'une part, et puis de procréation, hein, dite artificielle, je ne sais pas ce que c'est que l'artifice, vont ensemble de manière inverse et complémentaire. C'est-à-dire qu'objectivement, ces deux pôles dissocient sexualité de procréation, qu'on y voit un moyen d'oppression ou de libération.